France Inter.
Je viens de faire connaissance avec un suspect, avec un étranger qui, en octobre 1900, arrive à Paris pour la première fois avant d'être fiché toute sa vie par la police parisienne. Rapport, interrogatoire, carte de séjour, photo d'identité, empreinte digitale, quittance de loyer, certificat de domicile, demande de naturalisation, sauf conduit, enquête diverse, informations sur femmes, fils, parents, amis, références de moralité, opinions politiques, adresses successives, correspondances où l'on retrouve préfet de police, mais également homme politique aussi haut placé que le ministre des Affaires étrangères ou le président du Conseil. À l'origine de ces documents, je n'ai repéré aucun crime, aucun délit, sauf celui de ne pas être français. Le timbre espagnol, en capitale, apposé sur certains textes, signale une différence, une exclusion, une suspicion, un stigmate. Annie Cohen-Solal est ce soir notre invitée à l'occasion de la publication de son nouveau livre intitulé « Un étranger nommé Picasso ». Et comme chaque soir, on va commencer en musique avec Leonard Cohen.
It's true that all the men you knew were dealers who said they were through with dealing every time you gave them shelter. I know that kind of man. It's hard to hold the hand of anyone who's reaching for the sky just to surrender. Who is reaching for the sky just to surrender. And then sweeping up the jokers that he left behind, you find he did not leave you very much, not even laughter. Like any dealer, he was watching for the card that is so high and wild, he'll never need to deal another. He was just some Joseph looking for a manger. He was just some Joseph looking for a manger. And then leaning on your windowsill, he'll say one day you caused his will to weaken with your love and warmth and shelter. And then taking from his wallet an old schedule of trains, he'll say, I told you when I came I was a stranger. I told you when I came I was a stranger. Now another stranger seems to want you to ignore his dreams as though they were the burden of some other. Oh, you've seen that man before, his golden arm dispatching cards, but now it's rusted from the elbow to the finger. And he wants to trade the game he plays for shelter. Yes, he wants to trade the game he knows for shelter. Oh, you hate to watch another tired man lay down his hand like he was giving up the holy game of poker. And while he talks his dreams to sleep, you notice there's a highway that is curling up like smoke above his shoulder. It's curling just like smoke above his shoulder. You tell him to come in, sit down, but something makes you turn around. The door is open, you can't close your shelter. You try the handle of the road, it opens. Do not be afraid, it's you, my love, you who are the stranger. It is you, my love, you who are the stranger. Well, I've been waiting, I was sure we'd meet between the trains we're waiting for. I think it's time to board another. Please understand, I never had a secret chart to get me to the heart of this or any other matter. Well, he talks like this, you don't know what he's after.
when he speaks like this, you don't know what he's after. Let's meet tomorrow if you choose, upon the shore, beneath the bridge that they are building on some endless river. Then he leaves the platform for the sleeping car that's warm. You realize he's only advertising one more shelter. And it comes to you, he never was a stranger. And you say, okay, the bridge or someplace later. And then sweeping up the jokers that he left behind, you find he did not leave you very much, not even laughter. Like any dealer, he was watching for the card that is so high and wild, he'll never need to deal another. He was just some Joseph looking for a manger. He was just some Joseph looking for a manger. And leaning on your windowsill, he'll say one day you caused his will to weaken with your love and warmth and shelter. And then taking from his wallet an old schedule of trains, he'll say, I told you when I came I was a stranger. I told you when I came I was a stranger. I told you when I came I was a stranger.
Quand vous êtes-vous sentie étrangère, Annie Cohen-Solal ?
D'abord, merci Laure d'avoir changé la chanson de départ. Vous m'aviez demandé une chanson, j'avais donné autre chose et vous m'imposez celle-là qui est un choix génial.
Mais
génial.
On va entendre votre choix tout à l'heure.
C'est pas
aussi.
Grave, mais ça c'est génial. D'abord, un, j'adore Leonard Cohen et en plus celle-là, I was a
vous
stranger.
Vous portez le même nom, hein ?
Oui. moi je me suis sentie étrangère quand je suis arrivée d'Algérie, j'avais 14 ans. Un ou deux ans après, j'étais en Cagnes au lycée Molière. J'étais très bonne élève en Algérie. On était très fiers de moi. Mais à Alger, j'étais au lycée Fromentin. C'était un lycée historique où De Gaulle avait fait ses déclarations pendant la guerre. Et j'étais toujours la meilleure en français. J'écrivais des poèmes qu'on lisait en public. Je disais les tragédies classiques mieux que personne. Enfin, j'étais la voix de la culture française classique dans ce lycée Fromentin à Alger. Et puis j'arrive à Paris, il faisait froid, les filles connaissaient rien de l'Algérie. Et deux ans plus tard, je suis en Hippocagne-Cagne. Un jour, la prof d'histoire nous demande d'apporter un arbre généalogique. Alors je vais voir mes parents et mes grands-parents, j'en avais plus que deux grands-parents. Et je demande, qu'est-ce que vous savez au-delà de mes grands-parents ? Ils ne savaient rien. On était des juifs indigènes, on connaissait pas les... ses arrière-grands-parents, on connaissait vaguement, mais c'est tout. Et donc, j'ai fait ce que j'ai pu avec des noms qui étaient Bizizam, Mohamed, Mordechai, enfin des choses comme ça. Et j'arrive avec mon arbre généalogique, et la prof d'histoire qui s'appelait Madame Le Quéré, elle dit, ah, vous savez, dans la classe, il y a des filles formidables, dont les familles reviennent, datent du Moyen-Âge. Il y a Mademoiselle de Lesseps, il y a Mademoiselle de Machin, Mademoiselle de Truc. Et puis alors, Mademoiselle Cohen, cela, c'est dramatique. Enfin, ça se perd dans le désert, ça se perd dans les sables du désert. Ben, c'est là que je me suis sentie étrangère.
Et donc, c'est pour ça que vous êtes intéressée au monde intellectuel. C'est pour ça que vous avez décidé de traverser le monde. C'est pour ça que vous êtes intéressée à un homme qui a particulièrement compris ce que ça voulait dire être étranger à soi-même. Je veux parler de Paul Nizan. Je vous propose d'écouter sa voix. C'est la seule archive existante. Paul Nizan, c'était le 1er décembre 1938.
Je suis naturellement très heureux d'avoir reçu cette couronne littéraire. J'en suis d'autant plus heureux qu'elle vient de journaliste et va à un journaliste. Il me semble que l'union du métier quotidien du journal et du métier de romancier est quelque chose d'essentiel pour ce que doit être le roman de notre temps. On dit toujours qu'il y a une espèce de contradiction entre l'activité éphémère du journaliste et l'activité qui a des ambitions de permanence du romancier. Je crois que c'est exactement le contraire. Et que si le roman est un moyen de connaissance du monde et de la vie, le romancier est admirablement aidé par les exigences quotidiennes du métier.
Nous venons d'entendre la voix de Paul Nizan, la seule archive existante aujourd'hui. C'est une archive donc de 1938. C'était au moment où il venait de recevoir le prix Interallié pour son livre La Conspiration. Et Paul Nizan, s'il y a bien une figure qui était étranger à lui-même, qui a été coupée dans ses élans à la fois politiques, idéologiques, littéraires, c'est bien lui. Pourquoi l'avez-vous choisi ?
C'est incroyable d'avoir trouvé cette archive. Je ne connaissais pas sa voix. Et c'est marrant parce qu'il y a quelques petites intonations de son petit-fils qui est Emmanuel Todd, qu'il n'a pas connu. Pourquoi j'ai choisi Nizan ? D'abord parce que c'était aussi un personnage que j'ai découvert en Cagne, avec mon prof de philo. C'était au moment où Sartre le faisait renaître après... qui lui était démoli par les communistes pendant 40 ans, pendant 20 ans. De 40 à 60, on n'a pas prononcé son nom, parce qu'il avait démissionné du Parti communiste en 39. Et Sartre avait republié Aden Arabi, qui était le premier livre de son copain d'enfance, d'adolescence. Donc Aden Arabi qui commençait par la célèbre phrase « J'avais 20 ans, je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie ». Et Sartre qui fait une préface sublimissime pour présenter son copain. En fait, je voulais faire de la littérature. J'étais poète. Et quand notre prof de philo nous a parlé de ce livre, « Lisez la préface de Sartre à Aden Arabi » de Paul Nizan, j'ai entendu Aden, j'ai pensé à Rimbaud, j'ai dit « C'est un livre pour moi, ça ». J'étais sûre que j'allais entrer dans la poésie et pof, je suis entrée dans l'histoire du Parti communiste. Ça m'a duré quand même pas mal d'années. Mais c'est comme ça que j'ai découvert Nizan. Et après, évidemment, j'ai essayé de comprendre. J'ai fait ma thèse avec Annick Riegel et j'ai essayé de comprendre la complexité du personnage. C'est très, très, très intéressant parce que c'est un fils d'ouvrier qui va à l'école normale, qui va avec des héritiers, notamment Sartre, et qui va devenir communiste, qui va rompre avec le Parti communiste. Quand il est à Moscou pendant toute l'année 34, il se rend compte que le communisme n'est pas ce qu'il cherchait. Et j'ai donc découvert, et c'est comme ça que j'ai rencontré les sociologues américains, que, en fait, quand il démissionne en 1939, au moment du pacte de l'Union soviétique, c'est parce qu'il doute depuis qu'il est à Moscou. Donc il y a 4 années de doute qui aboutissent à la démission. Et en fait, c'est quand j'ai vu un sociologue américain qui m'a énormément influencé, qui s'appelle Irving Goffman. Goffman m'a dit « Ce que vous faites, c'est une sociologie du doute ». Donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire de l'histoire, de la micro-sociologie, et à m'intéresser au point de vue du sujet. C'est ce que je fais avec Picasso, ce que j'ai fait avec Picasso aussi. Ce qui m'intéresse, c'est ce que ressent un individu dans la société, et de faire le lien entre des perceptions fines sur des malaises, des écarts, des doutes, des stigmates, et puis la place dans la société, quoi.
Mais en tout cas, les copains d'abord, parce qu'après Paul Nizan, vous avez décidé de vous attaquer.
Et j'ai le pas mot... décidé.
Ah, vous n'avez pas décidé. Décidé. Non, pas décidé. Sartre et vous, ça s'est fait tout seul.
Non, j'ai pas décidé. J'ai été contactée par un éditeur américain, André Schifrin, qui m'a dit, voilà, Sartre est mort et il faut qu'il y ait une biographie. Or, je pense que je vous ai vu à la télé, il m'avait vu chez Pivot, il faut absolument que vous fassiez un projet. J'étais extrêmement intimidée. J'avais rencontré Sartre une fois quand j'avais 20 ans, quand je faisais justement ma maîtrise sur Nizan. Et la rencontre avec Sartre avait été extraordinaire. Enfin, c'était un petit monsieur déjà très célèbre, qui m'a accueilli à 1h de l'après-midi. On va savoir pourquoi 1h de l'après-midi. Et je suis restée 3 heures avec lui. Il m'a posé plus de questions que je n'ai pu lui en poser. Et il hésitait quand il me répondait. Je lui parlais de Nizan, je lui faisais parler de Nizan. Et il cherchait ses mots. Sartre, il parlait très très vite et de manière... Et pour qu'il termine ses phrases, je lui suggérais un mot. Et franchement, pour la gamine que j'étais, faire en sorte que Sartre termine sa pensée, donc ses phrases, avec un mot à moi... Ça m'a complètement métamorphosée. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Moi, je connaissais que les mandarins qui étaient nos profs à Nanterre. Enfin, c'était des mecs qu'on pouvait pas voir, quoi. Et là, cette énorme pointure mondiale qui a refusé le prix Nobel, non seulement s'intéresse à moi, mais en plus, utilise mes mots pour finir sa phrase. Et donc, on est sorti après, boulevard du Montparnasse, il est allé déjeuner à la coupole, et j'ai senti un sentiment très bizarre, fait à la fois de légèreté et de puissance. J'ai pas pu mettre un mot sur ce sentiment. Et c'est beaucoup plus tard, quand j'ai vécu aux États-Unis, que j'ai compris que ça s'appelait empowerment.
C'est-à-dire ?
Empowerment, émancipation. Il m'a donné la capacité de m'émanciper. C'est-à-dire que lui qui était... Il a renversé le rapport de force qu'il y avait entre nous. C'est-à-dire, il y avait un rapport de force qui était complètement en sa faveur, et il a fait en sorte que ce soit moi qui devienne le leader de la conversation. C'est absolument extraordinaire. C'est exceptionnel.
Mais il était extraordinaire et vous en avez fait un livre absolument étourdissant parce que vous avez créé à cette occasion, et on va retrouver toutes ces qualités dans ce nouveau livre sur Picasso, une sorte de d'anthropologie sentimentale, je dirais. C'est-à-dire que vous placez vos lecteurs à l'intérieur du personnage que vous allez essayer de comprendre. Et vous allez plus essayer de le comprendre grâce justement à ses contradictions, à ses faiblesses, à ses bifurcations existentielles, qu'à tous ses fracas, vanités médiatiques ou politiques. Et ensuite, vous l'avez dit rapidement, mais vous êtes parti pour les États-Unis, vous êtes devenu attaché culturel,
conseiller culturel
à New York. C'était pas rien, parce que vous êtes devenu ambassadrice et représentante de la culture française à New York. Et là, vous avez rencontré un monsieur extraordinaire qui a fait la pluie et le beau temps dans le monde de l'art contemporain, et pas seulement aux États-Unis, mais aussi partout en Europe et particulièrement en France. Je vous propose de l'écouter. Il s'appelait Léo Castelli et nous allons l'entendre dans son rôle de galeriste d'art. C'est une archive INA du 9 novembre 1985 et c'était au micro de Jean Dève. Léo Castelli.
Évidemment, de vendre un beau tableau à un grand collectionneur, de bien vendre, c'est quand même quelque chose qui me fait plaisir. Mais en général, je peux dire que ce n'est pas le but de mon activité, c'est de, évidemment, de gagner assez d'argent pour augmenter à l'infini les possibilités de la galerie, n'est-ce pas? C'est ça. Mon but, c'est la galerie, vraiment. Ce n'est pas de mettre de l'argent en banque. Aussi, peut-être, d'acheter de temps en temps quelques tableaux que je voudrais avoir moi-même. Ça me fait plaisir aussi.
Qu'est-ce que vous aimeriez avoir?
Ah ben, tous les beaux tableaux qui me passent par les mains. Je ne peux plus me permettre le luxe d'acheter des Jasper Johns ou de Rauschenberg ancien, ou de Warhol ancien. Mais quand même, il y a les nouveaux artistes qui sont déjà assez chers. Mais c'est là, c'est luxe, je peux me le permettre de temps en temps d'acheter un tableau ou un autre, oui.
Mais qu'est-ce qui fait que maintenant les toiles valent très cher, très vite? Et que très
l'énorme publicité qu'on fait partout dans le monde, c'est une énorme publicité internationale autour d'artistes qui ont du succès. Tout à coup, on ne sait pas pourquoi un certain artiste commence à avoir du succès. Alors ça va avec une rapidité extraordinaire, comme il y a énormément plus de collectionneurs, comme le domaine est international, surtout, enfin, évidemment, on sait que en France, il n'y a pas beaucoup de collectionneurs. Les musées achètent bien, mais pas les collectionneurs privés. Mais il y a une énorme activité en Suisse, en Angleterre aussi, en Allemagne. Et le marché est immense et le nombre d'étoiles ou de sculptures est limité. La publicité qu'on fait pour les artistes dans les magazines, à la radio, à la télévision, enfin, a augmenté 1000%. Tout le monde, enfin, il y a un public très très vaste maintenant qui est au courant de ce qui se passe. Alors, rapidement, on sait qu'un Basquiat surgit là, dont on ne sait pas où, et qu'il est un bon artiste. Il y a quelques collectionneurs qui commencent à acheter, et puis il y a la ruée sur l'or.
Nous venons d'entendre la voix de Léo Castelli, et effectivement, on entend dans cette voix son affabilité. C'était un homme extraordinaire, c'était un homme amoureux de l'art contemporain, c'était un homme qui aimait aussi s'entretenir très longuement avec les artistes. Pourquoi il a accepté de vous ouvrir toutes ses portes?
Je pense qu'il y avait un espèce de coup de foudre platonique. Il avait 82 ans, il était avec sa petite copine, c'était un dîner, il avait un petit appareil dans l'oreille qu'on voyait à peine, mais il était vibrionnant, mais absolument extraordinaire, on entend sa voix. Et en fait, il avait d'abord une passion pour les gens, une passion pour l'érudition, pour la culture. Il a commencé à me dire des poèmes de Ronsard, qu'il connaissait par cœur. Je veux dire, il naviguait entre quatre langues impeccablement. Et en fait, il était né à Trieste, je suis né à Alger, il y avait cette espèce de...
On revient à l'étranger.
Ouais, absolument. Cette espèce d'hybridation des cultures, de culture de port. Et en fait, on dit à Trieste une phrase très très belle. C'est un des grands écrivains de Trieste qui disait: Quello che conosce le lingue al mondo in mano. Celui qui connaît les langues a le monde entre ses mains. Ce qui m'a beaucoup intéressé chez Léo, c'est, et quand j'ai commencé à travailler sur lui, c'est qu'en fait, il est issu d'une lignée d'agents. qui parlait les langues, qui avait des contacts. Et j'ai découvert que dans le village où il m'a envoyé en Toscane, ses ancêtres vendaient déjà le papier à Vasari et Piero della Francesca à la Renaissance. En fait, donc, il le savait même pas, je crois, Léo. Donc, en fait, il était un intermédiaire, comme Canveller était un intermédiaire. Pour les Juifs, souvent, ne pas avoir vraiment de place dans la société, c'est vivre sur un strapontin. Et donc, il s'invente un rôle de passeur. Et là, Léo, c'était un passeur exceptionnel. Donc,
et découvreur.
Ah ben, complètement. Et c'est une des raisons pour lesquelles il a donc réussi. Il était au service de ses artistes, en fait. Il faisait ça comme une mission. Il dit bien, là, qu'il a pas... L'argent ne l'intéressait pas pour lui. Il investissait dans ses artistes, en fait. Il les mensualisait. Et il me disait, je mensualise Jasper et Bob Rauschenberg comme Gallimard mensualisait Sartre et Camus. Et donc, il prenait des modèles européens, quoi, extraordinaires. Il a commencé à gagner sa vie à l'âge de 50 ans. Donc, quand j'ai raconté ça au moment où mon livre est sorti, il y a plein de gens qui se sont mis à devenir marchands d'art parce qu'ils se disaient, voilà, Castelli est formidable. Et il a fait des réseaux pour la... Enfin, il a découvert que l'artiste aux États-Unis était méprisé. Et il était méprisé pour des raisons très complexes, que j'explique dans un autre livre. Et donc, ce qu'a fait Castelli, c'est qu'il a tenté, et il a réussi, de faire de l'artiste un héros aux États-Unis, comme l'artiste était un héros, donc, à la Renaissance italienne ou en Europe. Et donc, il a complètement modifié le contexte culturel des États-Unis. Il a transformé les artistes américains en héros, localement d'abord, et puis après dans le monde entier, en faisant avoir le lion d'or de la Biennale de Venise à Rauschenberg en 1964.
Alors, nous n'avons pas d'archives de Rothko, hélas, mais vous avez aussi écrit sur Rothko. Vous venez de le signaler, vous avez aussi écrit sur la perception de l'art américain et sur l'importance des peintres américains. Est-ce par votre amour de la peinture? Étiez-vous une visiteuse de musée avec vos parents quand vous êtes arrivée à Paris? Qu'est-ce qui vous a séduit dans le monde de l'art? Et qu'est-ce qui se passe pour vous à l'intérieur de votre corps et de votre cœur quand vous allez dans un musée d'art contemporain ou d'art plus classique? Annie Cohen-Solal.
Je suis pas arrivée en Europe pour la première fois de ma vie à 14 ans, je venais beaucoup plus tôt. Et on allait d'abord voir les musées italiens. Donc on allait d'Alger en Toscane, en Italie. Et donc
vos parents vous emmenaient dans les musées.
Oui. Et en fait, c'est l'émotion. De toute façon, c'est l'émotion. Un tableau, c'est une émotion. Et en fait, c'est le complément d'un travail intellectuel. Je veux dire, je crois qu'il y a rien sans émotion, je veux dire. Et donc, voilà, l'émotion devant une œuvre d'art, que ce soit une œuvre d'art médiévale, une œuvre d'art de la Renaissance ou une œuvre contemporaine. L'œuvre d'art, elle vous bouleverse, elle vous parle. Et ce qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est l'artiste. L'artiste, c'est quelqu'un qui se déplace de toute façon. Parce qu'il est extrêmement rare que l'artiste trouve les outils pour travailler à l'endroit où il est né. C'est Vasari qui disait « Perugino a quitté Perugia pour Florence parce que c'est à Florence qu'il y avait les meilleurs maîtres et les meilleurs mécènes. » Donc tout artiste est un migrant. Tout artiste est un exilé, tout artiste est un déplacé.
Tout artiste n'est pas forcément un étranger, comme l'a été durant toute son existence Pablo Picasso.
Oui, c'est vrai. Et je vais vous dire, ce qui me semble incroyable, c'est que cette approche, cet angle qui s'est imposé à moi parce que... Parce que un jour, au moment où a été inauguré, 7 ans après avoir été ouvert, le musée d'histoire de l'immigration à la Porte Dorée, c'était le 15 décembre 2015, par François Hollande, Benjamin Stora, qui était le président scientifique du musée, a parlé à France Culture, dont vous étiez la directrice à l'époque, et il a dit « c'est bien d'ouvrir ce musée parce qu'on pourra parler de gens qui n'ont jamais pu devenir français comme Picasso ». Et là, ça fait tilt dans ma tête, et j'ai commencé à y travailler, j'ai rencontré Stora, j'ai rencontré Laurent Lebon, et c'était le moment où Laurent Lebon arrivait au musée Picasso et ouvrait les archives. Et comme je suis une fanade d'archives, j'adore les archives, et je veux tout comprendre toujours, et je veux pas laisser de zone d'ombre, j'essayais de comprendre ce qu'il y avait dans la personnalité de Picasso quand il est arrivé en France en 1900 à l'âge de 19 ans quoi, et qu'il était déjà un génie en marche, il se savait un génie en marche, et qu'il arrive au moment de cette exposition universelle où la France est flamboyante avec son empire colonial et ses discours creux et stupides. Et lui arrive et avec des copains catalans, des copains de Barcelone où il habitait, parce que ses copains parlent le français, lui ne le parle pas. Il arrive une fois, il repart. Il vient une deuxième fois, il repart. Il vient une troisième fois, il repart. C'est extrêmement complexe. Et pour la quatrième fois, enfin, et chaque fois il vient avec des Catalans, et chaque fois il va dans le ghetto catalan de Montmartre, il se fait repérer par la police, et la quatrième fois, enfin, il arrive au bateau Lavoir, et immédiatement, il change de réseau, il comprend très exactement ce qu'il faut qu'il fasse, il parle pas un mot de français, il a quatre clés pour ouvrir ce labyrinthe parisien. La première clé, donc, c'est les Catalans de Montmartre, mais c'est aussi en même temps une malédiction. Deuxième clé, c'est Max Jacob, qui lui apprend le français, qui est un mec extraordinaire. Le troisième clé, c'est Apollinaire. Et la quatrième clé, c'est Léo et Gertrude Stein, les collectionneurs américains. Je pense que derrière l'artiste de génie qu'on connaît tous, qu'on a vu, dont on a l'impression de tout connaître, on connaît ses femmes, ses hommes, c'est tout, on connaît tout. On connaît ses périodes historiques, ses périodes esthétiques, tout. Mais il y a une chose qu'on ne connaissait pas, c'est ce qu'il a fait par rapport à cette France qui a des vagues de xénophobie récurrentes entre 1900 et 1945, et comment il a fait pour s'en protéger, construire sa carrière et devenir l'immense stratège politique qu'il est, au bout du compte. C'est un homme qui n'a jamais exposé ses doutes publiquement, qui n'a jamais exposé ses souffrances publiquement, ses angoisses publiquement. Je l'ai lu dans les lettres de la correspondance de ses copains au musée Picasso. Il y avait quelqu'un qui s'appelait André Level, qui était un monsieur merveilleux, qui écrivait à Picasso, qui parlait mal le français. Il lui écrit dans un français avec des imparfaits du subjonctif et des inversions baroques. Enfin, un homme d'un grand raffinement qui avait un immense respect pour Picasso. Ça se voit dans la langue qu'il lui écrit, quoi. Et André Level va devenir le protecteur de Picasso et son interface avec l'administration française. Parce que ce qu'on sait bien, c'est qu'un étranger ne sait pas négocier avec l'administration. Il n'y a rien de plus terrible pour un étranger que l'administration, la préfecture de police, le commissariat de police.
Oui, négocier à Nicolas Solal, parce que Pablo Picasso va vouloir se faire naturaliser.
Oui, une fois. Une fois. Personne ne le savait, il l'a dit à personne. Et pourquoi ? Ça se passe le 3 avril 1940. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, il est à la fois très connu pour Guernica, qui est en train de voyager dans le monde entier comme l'étendard de la résistance à tous les fascismes, puisqu'il a montré ce qu'est le bombardement d'une petite ville basque, un jour de marché, où ce sont les femmes et les enfants qui sont tués par la Légion Condor, c'est-à-dire les bombardiers à la fois nazis et allemands et espagnols. Et là, il fait cette œuvre sublimissime en moins de 3 semaines, dans des conditions démentielles, plié dans un atelier de la rue des Grands Augustins avec Dora Maar, qui est cette photographe surréaliste avec laquelle il vit et qui l'influence énormément, parce que ce noir et blanc, on voit dans ce noir et blanc, on voit dans cette œuvre des influences photographes de la photo surréaliste, évidemment. Et donc Guernica se balade dans le monde entier. Picasso est visible en France à 3 reprises en 1937, c'est au moment du Front Populaire, mais auparavant et après, il est invisible en France. Il est très très connu dans le monde entier, mais invisible en France. Et en fait, quand il sent, et puis alors en Allemagne, en 37, il va devenir un artiste dégénéré avec l'exposition de Munich organisée par Hitler. Donc Picasso est terrorisé quand il sent que d'abord, le pays d'où il vient est un pays qui est devenu un pays ennemi, puisque voilà, le pays dans lequel il vit est un pays qui va être envahi par les nazis, et il sait que Garcia Lorca a été tué comme victime expiatoire, et Picasso a peur. Donc il va faire cette demande de naturalisation. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la demande de naturalisation, elle est là, à l'ouverture de mon livre, et elle est extrêmement laconique, extrêmement courte. Et elle est assortie d'une signature sublimissime. Cette signature, elle dit « On ne peut pas me refuser la naturalisation ». Elle le dit, cette signature. Eh bien, on va lui refuser la naturalisation. Et ça, c'est une histoire ahurissante. Enfin, je pense qu'on ne peut ne lire mon livre que comme ça. On peut ne lire mon livre que comme un polar. Pourquoi Picasso n'a-t-il n'a-t-il pas été naturalisé français en 40 ? Je pense que c'est un angle de lecture du livre. Et en fait, on va découvrir que le gars qui va refuser la naturalisation française à Picasso, c'est un monsieur qui s'appelle Émile Chevalier.
Ne dites pas tout, Annie Cohen-Solal. On va l'apprendre qu'à la fin du bouquin, après 800 pages absolument palpitantes, et on va s'apercevoir que quelquefois les médiocres gagnent.
Incroyable. Vous avez lu, c'est ahurissant.
Bah oui, mais on en parlera tout à l'heure. Bon. Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical d'Annie Cohen-Solal, Anna Prucknall. Vous la connaissez par cœur, cette chanson, vous la chantez, Annie Cohen-Solal. C'est d'après un poème de Pier Paolo Pasolini.
C'est une merveille, vous aimez ?
Oui, beaucoup. C'est grâce à vous que je la découvre.
Vous la connaissiez pas ?
Non.
Ah, c'est incroyable. J'adore ce poème. J'adore ce poème. Il est brutal, il est violent, mais il donne un peu la sensation de ce que c'est d'être marginalisé. Et c'est vrai que quand j'ai vu la très très belle exposition Bleu et Rose sur Picasso au musée d'Orsay, avec 300 œuvres venant du monde entier, etc., où finalement elle se passait au moment du centième anniversaire de 1918. Et le président Macron, y avait invité 60 chefs d'État. Et au lieu de les inviter à la Philharmonie, Laurent Lebon lui a suggéré de les inviter au musée d'Orsay. Il y a eu un dîner au musée d'Orsay et ils ont vu l'exposition. C'est à ce moment-là que je me suis dit, mais est-ce que quelqu'un sait, parmi ces 60 chefs d'État, quelles étaient les conditions de vie de ce gamin quand il a fait ces œuvres-là? Puisque le bleu, période bleu-heureux, c'est entièrement fait au moment du, avant le cubisme, au moment du bateau lavoir. Et le bateau lavoir, c'était une espèce de taudis fait à la va-vite.
Vous racontez des conditions matérielles absolument épouvantables.
Et je dis, personne ne sait. Personne ne savait. Et il y avait Trump là-dedans aussi. Je me dis, ce que c'est, ce type qui fait des murs contre les gens qui essaient de venir du Salvador ou du Mexique se rend compte que derrière ces œuvres d'art qui valent des millions, il y a la souffrance d'un gamin qui n'en démord pas, qui est obsédé par son œuvre, qui est brillantissime et qui va, malgré tout, sans jamais se plaindre. Parce que il n'y a pas un mot de, il y a pas un mot larmoyant, il y a rien de larmoyant chez Picasso. C'est avancer. Et là, et tout en avançant, trouver les bonnes stratégies pour se protéger. La première chose qu'il fait, c'est changer de nom. Il s'appelle Pablo Ruiz Picasso. Mais Ruiz, c'est très marqué espagnol. Et j'ai trouvé aux Archives nationales des quantités de dossiers de Ruiz anarchiste. Qu'est-ce qu'il fait? Il lâche le nom de son père pour garder Picasso, le nom de sa mère, qui est beaucoup plus rare, d'abord, et qui est d'origine italienne. Et ça, c'est déjà une stratégie onomastique, comme on dit, et c'est déjà très très malin, je veux dire. Et en fait, il veut se démarquer du ghetto espagnol ou du ghetto catalan qui lui a permis d'arriver à Paris.
Alors vous adoptez le style chronologique et donc c'est toute la vie de Picasso, mais c'est aussi toute la vie internationale, politique, poétique, réception, artistique, littéraire, qui va se déployer à l'intérieur de vos pages, Annie Cohen-Solal. Et au début, il va, il vient, il revient, il repart. Pourquoi finalement a-t-il choisi définitivement la France?
Il n'y avait pas le choix. C'est pas le choix. Pour un artiste, c'était à Paris qu'il fallait être. Enfin, c'était la ville lumière, c'était la ville. Les Américains sont venus par milliers, on venait du monde entier. Les Juifs russes sont venus par milliers parce qu'il y avait les pogroms, etc. Donc c'était la ville qui attirait les artistes. C'était là qu'on avait appris qu'il y avait eu le Salon des Refusés. Je crois que c'est le Salon des Refusés que le prince Napoléon a accepté de montrer aux grandes dames des académiciens barbus et rigides que Courbet, Manet et les autres montrent leurs tableaux. C'était magnifique pour un artiste étranger.
D'ailleurs, il va beaucoup au musée, Picasso.
Tout le temps. Il est tout le temps. Et en fait, il vit dans le hors-temps du musée. Il est de toute façon dans un temps qui est au-delà du temps que lui impose la police. La police, elle impose aux étrangers d'aller au commissariat de police chaque fois qu'on change de domicile. Et les étrangers qui n'avaient pas beaucoup d'argent, ils changeaient souvent de domicile. Et donc la police les traquait. Mais Picasso, lui, a toujours vécu dans ce hors-temps-là. Picasso, c'est quelqu'un qui tutoyait Velázquez. Il faut voir le
portrait. Son grand modèle, dites-vous, Velázquez.
Un des grands modèles, Velázquez, Greco, etc. Mais quand il est allé au Prado, Picasso, à l'âge de 16 ans, il s'est mis devant le portrait de Philippe VI par Velázquez et il a copié. Mais la copie de l'enfant Picasso, de l'adolescent Picasso, est plus forte que l'original de Velázquez. Je vous jure. Hein. Il faut voir dans le livre, il y a un code-barre pour voir toutes les œuvres que je cite dans le livre. Et sur mon site, on les trouve aussi.
Alors, on va parler des choses qui fâchent, Annie Cohen-Solal. Il y a des zones d'ombre, évidemment, dans la vie de Picasso. Et plus il avance dans la vie, en tout cas, c'est ce que j'ai compris à travers la lecture de votre ouvrage, plus finalement, il va essayer d'exister comme un peintre mondial. Il veut se faire reconnaître, il va avoir une stratégie avec des agents, et vous faites un portrait magnifique de Ken Veller notamment, et il va adopter des stratégies de plus en plus complexes qui vont finalement l'autoriser à devenir ce qu'il veut être, c'est-à-dire un peintre extrêmement reconnu par le monde entier. Peut-être au détriment de quelques amitiés, et on va parler de la période de la guerre que vous abordez. Et dans cette période-là, vous parliez en début d'émission de Max Jacob. On sait le sort tragique de Max Jacob, qui va être arrêté par la police française et qui va être interné dans un camp. Finalement, il va pas être bon camarade avec ses grands camarades et ses grands amis. Pourquoi, à votre avis?
Oui, c'est une question très intéressante. Et c'est une question aussi qu'on peut poser à propos des femmes. Picasso est un opportuniste. Picasso est très opportuniste. Opportuniste aussi avec l'adhésion au Parti communiste plus tard. Je dirais que par rapport à Max Jacob, cette attitude pendant la guerre montre la fragilité de Picasso. C'est vrai que il vit dans l'atelier des grands Augustins.
Il est devenu un bourgeois.
Je pense que c'est pas exactement comme ça qu'il faudrait montrer ses succès. En fait, le cubisme, le moment où il devient leader de l'avant-garde, c'est entre 1907 et 1914.
Vous expliquez admirablement l'amitié très féconde entre Braque et Picasso.
Avec Braque, bon. Mais là, c'est pas tant que lui avait des stratégies, non. Il trouve un marchand qui comprend ce qu'il fait. Il y a très très peu de gens en France qui comprenaient ce qu'ils faisaient. Très très peu. Il y avait un collectionneur français qui était Roger Dutilleul, qui était un homme qui avait transgressé les goûts de son milieu. Mais ceux qui ont compris ce que Picasso faisait, puisque Picasso était à l'unisson avec Bergson ou avec Einstein, il était complètement dans l'époque. La personne qui a compris, c'est Canveller qui avait 23 ans. Pourquoi ? Parce que Canveller avait été éduqué par la très grande histoire de l'art allemande, qui était une histoire de l'art qui intégrait l'anthropologie, la linguistique, la philologie. Et en fait, les historiens d'art allemand étaient des très grands savants qui avaient voyagé et qui étaient déjà pluridisciplinaires. Or, en France, on était réduits par des historiens d'art extrêmement borné à imiter le bon goût français. Et c'était une arrogance folle et une fermeture d'esprit folle. Et de ça, Picasso a énormément pâti. Tout le monde le dit. À quel point les institutions administratives françaises, notamment dans le monde des beaux-arts, étaient fermées. Elles étaient endogènes. Elles regardaient leur propre passé, quoi. Et Picasso est de toute façon un homme disruptif. Ce qu'il a voulu faire avec Braque, c'est qu'il a introduit de l'artisanat dans les arts nobles. C'est-à-dire, il a les papiers collés, c'est ça. C'est des techniques de l'artisanat appliquées à la peinture et à la sculpture. Or, les Français ne pardonnent pas ça à ce moment-là. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a cassé la tradition du chef-d'œuvre. Qui était représenté par son père, puisque son père était un professeur à l'école des beaux-arts très traditionnel. Et Picasso, c'était un homme révolutionnaire. Donc ça, c'est une des choses que la France ne lui a pas pardonné. On ne lui a pas pardonné d'être, un étranger, deux, être un homme d'extrême-gauche, et trois, d'être un artiste d'avant-garde. L'avant-garde était très très mal vue en France. Picasso était invisible dans les collections publiques françaises jusqu'en pratiquement 1955. C'est ahurissant. Il avait fait un don au musée de Grenoble parce qu'il y avait un directeur formidable qui s'appelait Audrey Farcy. Picasso avait fait un don en 1921. Et deuxièmement, Madame Cocchiot avait vendu au musée de Jeu de Paume le portrait de Gustave Fuchs. C'était deux œuvres qui étaient pas très belles. Donc c'était toute la présence française en France de Picasso dans les collections françaises, c'était tout. Alors qu'il était extrêmement célèbre en Autriche-Hongrie, en Allemagne et en Russie avant la Première Guerre mondiale, et aux États-Unis entre les deux guerres. Donc le décalage est faramineux. Il a fallu très 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 longtemps pour que les institutions françaises comprennent, acceptent et respectent qui était Picasso.
Je vous propose de l'écouter. Il va parler du mot amour. C'est une archivina du 21 octobre 1966 et c'était au micro d'Adam Saunier.
Ah oui, Adam Saunier.
J'étais une fois à Nice même, où on m'a fait lire un petit papier, quand on a reçu, je ne sais pas combien de milliers et de milliers de jeunesse du monde. Enfin, vous rappelez, il y a beaucoup d'années. Enfin, alors c'était là, sur les monuments aux morts, vous savez, énorme, ça, avec une foule qui venait depuis la Boca, comme ça, jusqu'à Nice, n'est-ce pas, sur la route.
Oui.
Ça. Et alors là, j'ai lu, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que j'ai lu, parce que c'était très court, et ce n'était pas moi qui l'avais écrit, même. Mais enfin, j'ai prononcé quelques mots qui ont eu le plus grand succès, il paraît. Je ne sais pas comment ils ont entendu, car moi, je n'ai pas l'habitude de parler devant un micro.
Mais hier soir, c'était fantastique. Je vous regardais au milieu de cette salle immense, vous étiez petit, presque perdu même au milieu de cette foule.
Oui.
Est-ce que vous avez été quand même impressionné
J'étais impressionné, en tout cas très touché de, ce, de cette espèce de sympathie, amour, ou je ne sais pas, ou amitié que et tant de gens me portent.
Justement, vous aimez beaucoup le mot amour, Pablo Picasso.
Mais oui, mais oui, même une jeune fille que l'autre jour m'a interviewé pour je ne sais pas quel journal, je lui avais dit ça, vous savez, pour moi, il n'y a que l'amour, n'est-ce pas?
Vous aimez bien les gens?
J'aime beaucoup les gens.
Tout le monde?
Et si je n'aurais pas de chance, je ne sais pas qui j'aimerais. J'aimerais même un bouton de porte, n'est-ce pas? Un pot de chambre, n'importe quoi.
Génial.
Alors, impossible de résumer vos étourdissantes 700 pages à Nico Ensolal. On peut peut-être terminer cette émission sur votre épilogue, où vous dites que le ministre Edmond Michelet l'appelait vieux maître, mais que pour vous, il est resté à tout jamais, et peut-être à ses propres yeux lui-même, un métèque.
Je prends le terme métèikos, métèikos. C'est Barbara Cassin qui m'a aidé à élaborer le sens de métèikos. C'est un étranger qui arrive dans une ville et qui n'est ni le citoyen, ni l'étranger, mais c'est celui qui arrive de l'extérieur et qui reste. Et j'ai trouvé qu'en fait, Picasso, c'est un homme aux identités multiples, puisque quand il arrive à Paris en 1900, il est né en Andalousie, il a vécu à Barcelone longtemps, donc il est andalou, catalan, mais il est aussi galicien et castillan, et l'Espagne n'a pas du tout la même organisation culturelle que la France, qui est infiniment plus centralisée. Donc, cette pluralité de cultures, il l'a toujours travaillée, il l'a toujours mise en place, il l'a travaillée dans les interstices de la société française, dans les interstices des cultures qui l'intéressaient, et à la fin, il va dans le sud, il va vivre dans le sud, et il redevient artisan comme il l'avait été au moment du cubisme, avec les artisans céramistes de Valoris, et il devient immédiatement le plus génial céramiste du groupe. Enfin, on va montrer. Et donc, il devient un céramiste comme étaient les céramistes de la Grèce ancienne. Et il fait des quantités de plats, et très très beaux. Et parmi ces plats, il y en a un que je montre. C'est un plat qui s'appelle plat aux trois visages, que je trouve magnifique parce que on y voit l'étranger, le citoyen et au centre, le métèque, qui est un homme à la mine réjouie, mais tous trois dans un cercle, enfermés dans le même cercle. Et je pense que c'est une belle allégorie pour le rendre compte du cosmopolitisme de Picasso, pour sa place qui débordait tout. Enfin, je veux dire, il a ce que Picasso a apporté à la France est considérable. Cet homme a était un vecteur de modernisation du pays. Quand on lui a demandé des œuvres, parce que dès qu'il adhère au Parti communiste en 44, il est très 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 connu par les municipalités communistes qui sont, c'était le parti des fusillés. Donc les gens lui demandent un tableau, un truc. Il donne absolument partout. Et que ce soit Saint-Étienne, que ce soit Boulogne-sur-Mer, que ce soit, toutes ces villes-là vont avoir des œuvres de Picasso parce que il les donne. Et il va choisir la province contre Paris. Il ne reviendra plus jamais à Paris après 55. Il va choisir les artisans contre les beaux-arts. Et il va choisir d'être citoyen d'honneur de Valoris en refusant la Légion d'honneur. C'était ça, Picasso. Et en devenant artiste mondial. Donc, il s'en est fallu de très, très peu. C'est grâce à Malraux qui a fait cette loi sur les dations le 31 décembre 1968, 3 ans avant la mort de Picasso, pour que finalement, Picasso, avec les droits de succession, puisse être payé par ce qui est devenu le musée Picasso, c'est-à-dire son trésor, c'est-à-dire toutes ses archives et beaucoup de ses œuvres. Et donc, la création du musée Picasso à Paris. Mais donc, les choses se sont renversées. La France, où il a été très absent, très très absent pendant 40 ou 50 ans, est devenu le pays qui avait déjà 2 musées Picasso, puisqu'il y a celui d'Antibes aussi, et puis le musée Picasso à Paris, qui est une merveille. Et c'est là que j'ai travaillé. Voilà.
Ben merci infiniment à Nico Ensolal pour ce très beau livre qui s'intitule « Un étranger nommé Picasso » et qui vient de sortir aux éditions Fayard.
Chanson qui s'embrouille le chagrin pour te dire combien je suis seul, pour te dire combien je suis las. Un couplet aux airs de faux refrains pour dire combien la vie est laide ou combien elle est dégueulasse. Une chanson qui frise la complainte pour te dire que la pluie est triste, pour te dire que la neige est crade, que la lumière. demi-teinte, que j'ai l'air d'un équilibriste, plus que d'un avaleur de sabre. Je me souviens de ton dos, une sonnerie en ligne, puis rien de rien, plus un mot, un bâton.
Avec Rue Saint-Louis en île de Benjamin Biolay et Juliette Armanet que nous allons nous quitter ce soir. Merci à Annie Cohen-Solal. Je rappelle que votre livre s'intitule « Un étranger nommé Picasso » qui vient de paraître aux éditions Fayard et qu'il y a un QR, un code sur le livre qui permet de voir des photographies rassemblées de votre enquête et ainsi suivre tout le parcours de Picasso par des images. Merci à Elisabeth Collet, qui était à la régie technique ce soir. Merci à Céline Villegas, Louise Tempero, Élodie Royer. Merci à Jean-Baptiste Dibert pour ses conseils musicaux. Et merci bien sûr à Lilian Allôme, qui comme chaque soir a réalisé cette émission.